Vous parliez, Raphaël, tout à l'heure de la vanité et de l'amour de Swann pour Odette. Écoutons donc le beau texte.
Odette jouait fort mal, mais la vision la plus belle qui nous reste d'une œuvre est souvent celle qui s'éleva au-dessus des sons faux tirés par des doigts malhabiles d'un piano désaccordé. La petite phrase continuait à s'associer pour Swann à l'amour qu'il avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Il se rendait compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attachât tant de prix au moment passé auprès d'elle. Et souvent, quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu'il l'entendait, savait rendre libre en lui l'espace qui, pour elle, était nécessaire. Les proportions de l'âme de Swann s'en trouvaient changées. Une marge y était réservée à une jouissance qui, elle non plus, ne correspondait à aucun objet extérieur et qui, pourtant, au lieu d'être purement individuelle comme celle de l'amour, s'imposait à Swann comme une réalité supérieure aux choses concrètes. Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir, de sorte que ces parties de l'âme de Swann, où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette.
J'aimerais attirer votre attention, Raphaël, sur le fait qu'en écoutant encore une fois la sonate jouée par Odette, cette fois qui joue très mal, mais les proportions de l'âme de Swann s'en trouvent changées.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les proportions d'une âme ?
Ben justement, je vous demande.
Parce que le langage de l'espace ne s'applique pas à la spiritualité de l'âme. Comment peut-il parler des proportions de l'âme ? Cette petite phrase a pour effet de lui dilater l'âme, il dit, comme certains parfums ont pour propriété de dilater nos narines. La voilà. Se contenter de répondre par la musique, puisqu'il suffit d'entendre la fantaisie en ré mineur de Mozart pour comprendre ce que ça veut dire que changer les proportions d'une âme, puisqu'on l'éprouve quand on l'entend, à coup sûr. À tel point d'ailleurs qu'en un sens, il y a quelque absurdité à parler dessus, mais c'est pas grave, on le donne à entendre quelques mesures, à chacun ensuite de les écouter à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Parce que les proportions de l'âme s'en trouvaient changées. En vérité, Swann accède à un registre qui n'est plus celui de l'étendue, qui n'est plus celui des proportions. C'est en cela que les proportions sont changées. En fait, l'âme de Swann accède à la quatrième dimension, c'est-à-dire à la dimension du temps, à la dimension de l'irréversible. Et c'est en cela que son amour, tel qu'il l'éprouve à l'écoute de la petite phrase, il comprend que c'est quelque chose qui ne correspond à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Ça n'est pas seulement parce qu'Odette n'est pas son genre. que son amour n'est pas constatable par d'autres que lui. C'est pas seulement parce que les gens se disent « Quel couple mal accordé, le chic Swan avec cette demi-mondaine, avec cette coquette cocotte qu'est Odette. » Bon, c'est pas seulement le jugement d'autrui, c'est un peu ça hein, pour Swan. Mais c'est pas que ça. C'est aussi parce que la nature même d'un sentiment est de n'être pas saisissable, ni mesurable, ni quantifiable. Et c'est le privilège de la musique, Paola. C'est le privilège de la musique. Proust dit « De même que certains êtres sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée, je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. » Conclut, il dit « Elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite. L'humanité s'est engagée en d'autres voies, celle du langage parlé et écrit. » Voilà ce qui nous reste à nous, pauvres R. Nous n'avons que le langage parlé ou écrit, alors qu'en réalité, c'est-à-dire dans la réalité, il n'y a que la musique et son absence de parole, car le réel est d'une étoffe telle que les mots ne sont jamais assez pour le dire.
Alors Swan n'est pas artiste, c'est ce qu'on a dit, et pourtant c'est un beau geste de peintre ou d'écrivain qu'il a à la fin de cet extrait, parce que j'attire votre attention. Donc, il était libre d'y inscrire le nom d'Odette sur les parties laissées en blanc dans son âme.
Oui, Swan, c'est la matière première de l'artiste. C'est celui qui éprouve ce qu'un artiste doit réussir à éprouver tout en le pensant pour pouvoir le restituer. Swan est un songeur. C'est un mélancolique, Swan. C'est une cause perdue, Swan. C'est un songeur. Il songe. Il est tellement dans le songe, dans le rêve d'un amour, dans l'émotion qu'il éprouve devant la petite phrase, dans la transfiguration du monde par l'art tel qu'il le connaît, et il est tellement cultivé aussi, qu'au fond, il ne sort jamais de sa rêverie pour en faire le cadeau aux autres, sinon sous la forme de quelques formules scintillantes, de quelques traits d'esprit qui font qu'il est totalement toujours bien reçu dans tous les great events du Paris de la Belle Époque.
Bon. C'est sa vie qu'il transforme en œuvre d'art.
C'est pas la Belle Époque, d'ailleurs, c'est avant, pardon.
Il ne laisse pas d'œuvre d'art, mais il transforme sa vie en œuvre d'art.
Sa vie n'est une œuvre d'art que parce que, comme le dit le narrateur lui-même dans un passage où on ne sait plus vraiment à qui il s'adresse, sa vie fait l'objet d'une œuvre d'art. À un moment, le narrateur dit, il y a comme ça des passages où le narrateur sort de son récit et se met à parler avec son lecteur ou avec le personnage qui est censé avoir inspiré le personnage fictif qui est Charles Swan, en l'occurrence Charles Haas. Et il dit, parlant de Swan et à Swan, alors que Swan est mort, il lui dit, et pourtant... C'est juste après l'annonce de la mort de Swan. Il y a un articulet dans le Petit Gaulois qui dit « Charles Swan est mort, on est bien triste, etc. » Enfin bon, voilà, la vie d'un homme est résumée en 5 lignes et puis terminée, basta, on passe à autre chose. Et le narrateur dit « Et pourtant, cher Charles Swan, cher Swan, c'est ce jeune homme que vous deviez tenir pour un imbécile. C'est grâce à lui, peut-être, que vous survivrez. » Et un moment, et il parle à ce moment-là du tableau de Tissot, le cercle de la rue Royale. Et il dit, dans ce tableau où vous apparaissez, or, qui apparaît dans ce tableau? C'est pas Charles Swan, c'est Charles Haas. De sorte que le narrateur fait référence au véritable personnage, Charles Haas, lequel a disparu derrière Charles Swan, mais c'est le sujet empirique qui disparaît au profit du sujet éternel. Swan n'est pas artiste, mais il est muse. Il est muse de l'artiste dont il ne savait pas qu'il était à côté de lui. Il est muse de l'artiste, c'est-à-dire il est muse pour le narrateur. Il est muse et inspirateur pour le narrateur. Et le narrateur se sert de Swan pour montrer la source vive de la démarche qui fut la sienne, l'une des sources vives de la démarche qui fut la sienne. Et au fond, Swan, c'est son alter ego, c'est son ancêtre, c'est le premier venu. dans la longue lignée de ceux qui savent regarder le monde avec l'œil candide d'un artiste, c'est-à-dire d'un enfant. Swann s'entend bien avec le narrateur quand il est enfant, ça n'est pas un hasard. Ce sont des enfants tous les deux. Sauf que la différence entre Swann et le narrateur, c'est que le narrateur fait son miel de son enfance. Alors qu'en un sens, Swann reste prisonnier d'une enfance qui est la sienne. Le narrateur saura convertir l'émotion qu'il éprouve en langue, en littérature, c'est-à-dire en musique. Swann restera toujours, en un sens, extérieur à cette création qu'il connaît, qu'il comprend mieux que tout le monde. Et c'est la grande tristesse, c'est la grande amertume de constater à la fin de la vie qu'on est passé à côté de la vie. Et c'est exactement ce qui arrive à Swann. Que sa mort, dont l'annonce de la mort laisse parfaitement indifférent ceux qui étaient ses meilleurs amis et qui, après sa mort, est présenté comme homosexuel par le baron de Charlus qui croit se cacher derrière l'ombre de Swann. Et dont, bien qu'il meure, la duchesse de Guermantes refuse de rencontrer la mère et la fille, si vous voulez. C'est un échec sublime, Swann. C'est peut-être le plus beau de tous. Et c'est une des choses que la recherche, je dois dire, raconte à merveille.
Elle était encore là, comme une bulle irisée qui se soutient. Tel un arc-en-ciel dont l'éclat faiblit, s'abaisse, puis se relève et, avant de s'éteindre, s'exalte un moment comme il n'avait pas encore fait, aux deux couleurs qu'elle avait jusque-là laissées paraître, elle ajouta d'autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter. Swann n'osait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquille aussi les autres personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, délicieux et fragile, qui était si près de s'évanouir. Personne, à dire vrai, ne songeait à parler. La parole ineffable d'un seul absent, peut-être d'un mort, Swann ne savait pas si Vinteuil vivait encore, s'exhalant au-dessus des rites de ses officiants, suffisait à tenir en échec l'attention de 300 personnes et faisait de cette estrade où une âme était ainsi évoquée un des plus nobles autels où puisse accomplir une cérémonie surnaturelle.
C'est étrange, vous ne trouvez pas le vocabulaire religieux qu'emploie le narrateur ici ?
Oui, parce que c'est une cérémonie, c'est une messe, c'est une offrande, et c'est une théophanie, une épiphanie. La petite phrase, elle délivre en vérité le secret de l'apparition de ce qui apparaît, et elle est le langage des âmes. Alors, il ne s'agit pas de Dieu. Mais il s'agit très exactement, littéralement, d'une musique divine. En sa petite phrase, dit Proust, quoiqu'elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l'avaient entendue la conservaient en eux de plein pied avec les idées de l'intelligence. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'espèce de réminiscence musicale que compose cette petite phrase n'est pas un retour en arrière, mais à l'inverse, la découverte impérative, fulgurante, inoubliable, noble, inintelligible et précise, qu'au sein du temps, à l'état pur, les hommes sont les contemporains de toutes leurs émotions. C'est ça que raconte la petite phrase. La petite phrase enseigne l'art d'être le contemporain de son émotion. c'est-à-dire d'éprouver quelque chose tout en se disant qu'on l'éprouve. C'est un exercice fulgurant, stupéfiant, d'être et de savoir simultané. C'est en cela que la petite phrase, il n'est pas question de mensonge ou de vérité ici. Il est question d'apparition. Il n'est pas question d'espoir ou de regret. Il est question d'une rivière qu'on ne voit pas mais dont un rideau de peuplier dessine le cours. Il est question d'une promeneuse, on l'a vu tout à l'heure, que masque le rideau d'une cascade. Il est question d'un esclave dont les chaînes font saillir les muscles. C'est une singularité, la petite phrase, au sens presque que les physiciens pourraient donner à ce terme, ou que les mathématiciens pourraient donner à ce terme. C'est une singularité charnue, aérienne, malléable. C'est un morceau de réel en exil dans l'univers des lieux communs. C'est en cela qu'il y a quelque chose de religieux dans cette petite phrase, parce qu'elle fait le lien. Elle fait le lien non pas entre deux univers, mais elle fait le lien entre le monde des lieux communs, c'est-à-dire le lieu commun du monde où nous nous trouvons et où les gens comparent la petite phrase à l'épisode des tables tournantes, et la réalité toute nue, toute à son âpreté, et toute à la douleur, et toute à la douleur de son irréversibilité. La petite phrase fait le lien entre ces deux univers. C'est exactement ce que Bergson appelle un souvenir du présent. En fait, la petite phrase, vous savez, c'est une défaite de l'écriture. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est une défaite de l'écriture, d'où naît l'art d'être surpris par ce à quoi on s'attend. Car Swann s'attend à voir apparaître la petite phrase, et il n'en revient pas à chaque fois qu'elle apparaît, à chaque fois qu'elle survient. D'ailleurs, au passage, vous pouvez comprendre ici à quel point, Paola, on se fiche, on se fout de savoir si le véritable auteur de cette petite phrase, c'est Fauré, Debussy, Mozart, César Franck. Parce qu'une telle question remplace l'étonnement par la curiosité, la candeur par l'érudition. C'est le contraire de la question qu'il faut se poser. Il ne s'agit pas de savoir qui est l'auteur véritable de la petite phrase, mais essayer de serrer au plus loin le mystère de quelque chose qu'on croise toujours par hasard, mais qu'on éprouve à chaque fois comme nécessaire. À la façon, justement, précisément, non pas d'une religion, mais d'un dieu, par exemple, qu'on croise par hasard, mais qu'on éprouve comme nécessaire à l'instant où on le croise.
Vous parliez de la défaite de l'écriture. Ça explique peut-être cette expression assez étrange. C'est la parole ineffable d'un seul absent, puisque Swann ne sait pas alors si Vinteuil est mort ou pas. Et peut-être qu'avant que l'émission finisse, on a le temps de parler de la différence du rapport qu'entretiennent Marcel et Swann avec la petite phrase, parce que quand Marcel l'écoute pour la première fois, il ne reconnaît pas, contrairement à Swann et Odette, directement cette petite phrase. Il ne la voit pas comme un morceau précis dans le Septuor.
Non seulement on n'a pas le temps d'en parler, Paola, mais en plus on n'a même pas le temps de donner à entendre le passage où le narrateur retrouve cette petite phrase harnachée, maquillée, grimée sous la forme d'un Septuor. La seule chose à la rigueur qu'on peut entendre, c'est l'un des moments où Albertine, cette fois-ci dans le rôle d'Odette, joue au narrateur, lui-même dans le rôle de Swann, la petite phrase en question.